Chapitre 2. À la chaîne des événements, il faut encore ajouter deux anneaux pour qu'elle embrasse ce long récit dans toutes ses parties essentielles. Tandis que, délivrés tout nouvellement de notre long esclavage, nous n'étions pas faits encore à la liberté qui venait de nous être rendue, l'ami qui le premier m'avait employé comme graveur sur bois m'envoya chercher pour me donner une nouvelle preuve de l'intérêt qu'il prenait à mon bien-être. Ses patrons lui demandaient d'aller à Paris pour y examiner en leur nom une découverte récemment faite en France, touchant certains procédés pratiques de son art, découverte sur le mérite de laquelle il désirait être complètement édifié. Les travaux dans lesquels il était engagé ne lui laissaient pas le loisir nécessaire à cette mission, et il avait eu la bonté de me désigner comme pouvant la remplir à sa place. Je ne devais pas hésiter à me prévaloir de cette offre tout obligeante, car si je remplissais mon mandat aussi bien qu'il m'était permis de l'espérer, il en devait résulter pour moi un engagement permanent auprès du journal illustré, dont jusqu'alors je n'avais été le collaborateur qu'à titre indirect et précaire. Je reçus mes instructions et fis mes malles dès le lendemain. En laissant Laura, une fois encore, mais combien les circonstances étaient changées, sous la protection de notre chère sœur, une considération sérieuse me revint à l'esprit, qui avait déjà plus d'une fois préoccupé ma femme aussi bien que moi, savoir ce que serait désormais l'avenir de Marion. Avions-nous aucun droit d'accepter, dans notre égoïste attachement, le sacrifice absolu de cette généreuse existence? N'était-ce pas notre devoir, et en même temps la meilleure manière de lui témoigner notre reconnaissance, que de nous oublier désormais pour ne plus penser qu'à elle? Sur le point de me mettre en route, je voulus lui faire part de cette pensée, dans un moment où nous étions seuls. Mais elle prit ma main, et dès les premiers mots m'imposa silence. « Après tout ce que nous avons souffert ensemble, à nous trois, me dit-elle, il ne peut y avoir entre nous qu'une séparation, la dernière de toutes. Mon cœur et mon bonheur, Walter, sont avec Laura et vous. Attendez qu'il y ait d'ici peu des voix d'enfants autour de votre foyer. Je leur apprendrai à plaider ma cause dans le seul langage qu'ils puissent parler. » Et la première leçon qu'ils réciteront à leur père et mère sera celle-ci. Nous ne pouvons nous passer de notre tente. Je ne fis pas seul le voyage de Paris. À la dernière heure, Pesca résolut soudainement de m'accompagner. Depuis sa soirée de l'opéra, il n'avait pu recouvrer sa sérénité habituelle et voulait essayer, pour se ranimer un peu, d'une semaine de distraction. Je remplis la mission qui m'était confiée, et j'avais terminé le rapport dont j'étais chargé 4 jours après notre arrivée à Paris. Je m'arrangeai pour consacrer le 5e jour à parcourir la ville et à me distraire avec Pesca. Notre hôtel s'était trouvé trop rempli pour qu'on pût nous loger de plein pied. Ma chambre était au second et celle de Pesca justement au-dessus, au 3e étage. J'y montai le 5e jour de bonne heure pour savoir si le professeur était prêt à partir. Comme j'arrivais sur le palier, je vis sa porte s'ouvrir en dedans. Une main allongée, délicate et nerveuse, ce n'était pas à coup sûr celle de mon ami, la tenait entrebâillée. J'entendis en même temps la voix de Pesca, vibrante d'émotion, prononcer tout bas ces mots dans son langage natal. Je me souviens du nom, mais je ne connais pas l'homme. Vous l'avez vu à l'opéra. Il était si changé qu'il n'y avait pas moyen de le reconnaître. J'acheminerai le rapport. Au besoin, je ferai plus. « Faire plus serait inutile, » répondit une autre voix. La porte s'ouvrit alors toute grande, et l'homme aux cheveux blonds, l'homme à la joue balafrée, l'homme que j'avais vu quelques jours avant suivre en cabriolet le comte Fosco, cet homme sortit de la chambre. Comme je m'écartais pour le laisser passer, il me salua. Son visage était d'une pâleur effrayante, et, en descendant, il s'appuyait fortement à la rampe de l'escalier. Je poussai la porte et j'entrai chez Pesca. Il était roulé sur lui-même, de la plus étrange façon, dans un coin du sofa. Comme je m'approchais, il sembla se rapetisser encore. On eût dit qu'il voulait m'éviter. « Est-ce que je vous dérange ?» lui demandai-je. « Je ne savais pas que vous aviez un ami chez vous, et ne m'en suis douté qu'en le voyant sortir. »« Ce n'est pas un ami, » répondit Pesca, fort ému. « Je l'ai vu aujourd'hui pour la première et dernière fois. » « Je crains qu'il ne vous ait apporté de mauvaises nouvelles. »« D'horribles nouvelles, mon bon Walter. Retournons à Londres. Je ne veux plus rester ici. Je regrette sincèrement d'y être venu. Les infortunes de ma jeunesse pèsent sur moi d'un poids bien lourd, dit-il en tournant son visage du côté de la muraille. C'est un rude fardeau pour mon âge mûr. Je m'efforce de les oublier. Mais elle ne m'oublie pas, elle. Je ne crois pas, répliquai-je, que nous puissions partir avant ce soir. Vous conviendrait-il, d'ici là, de m'accompagner dans mes courses? Non, mon ami, j'attendrai ici. Mais partons aujourd'hui. Partons, je vous le demande en grâce. Je le quittai en l'assurant que nous sortirions de Paris dans la soirée. Nous étions convenus, la veille, de monter autour Notre-Dame et d'y relire certains chapitres du beau roman de Victor Hugo. Rien dans la capitale de la France ne m'inspirait une curiosité plus vive. Et je m'acheminai seul vers la vieille cathédrale. En arrivant, par les quais du côté de Notre-Dame, je passai naturellement devant la morgue, ce terrible charnier de Paris. Il y avait grande foule et grand tumulte autour de la porte. La curiosité populaire et cette soif d'horreur qui est l'apanage des classes inférieures trouvaient évidemment de quoi se satisfaire à l'intérieur du sinistre édifice. J'aurais passé mon chemin si mon oreille n'avait saisi au vol quelques mots échangés entre deux hommes et une femme qui causaient à la limite extérieure du groupe tumultueux. Ils sortaient à peine de la morgue, et la description qu'ils faisaient du cadavre qu'ils venaient de voir saisit vivement mon imagination. Cela devait être car il s'agissait d'un homme taillé dans des dimensions colossales et portant à son bras gauche une marque bizarre. Dès que ces paroles m'arrivèrent, je fis halte et pris ma place parmi les gens qui se pressaient pour entrer. Un vague et obscur pressentiment de la vérité m'avait traversé l'esprit au moment où j'entendais vibrer à travers la porte ouverte la voix de Pesca, et lorsque j'avais vu le visage de l'étranger qui, sur l'escalier de l'hôtel, passait en s'inclinant devant moi. Maintenant, la vérité elle-même m'était révélée, par ces paroles que le hasard avait fait arriver à mes oreilles. Ainsi donc, une autre vengeance que la mienne avait suivi cet homme prédestiné depuis sa stalle au théâtre jusqu'à la porte de sa maison, et depuis cette porte jusqu'au refuge qu'il était venu chercher à Paris. Une autre vengeance que la mienne lui avait demandé compte de ses méfaits, et lui en avait infligé le mortel châtiment. Le moment même où je l'avais désigné à Pesca, dans le parterre du théâtre, de manière à être entendu par cet étranger, qui, placé à côté de nous, l'examinait comme nous, ce moment avait scellé sa condamnation. Je me rappelais le combat qui se livrait dans mon cœur alors que nous étions face à face, la peine que j'avais eue à souffrir qu'il m'échappa, et ce souvenir me fit frissonner. Lentement, pouce par pouce, j'avançai, porté par la foule, me rapprochant peu à peu de cette cloison de verre qui, à la morgue, sépare les vivants et les morts. Et je finis, arrivé derrière le premier rang des spectateurs, par avoir sous les yeux l'affreux tableau dont il se repaissait. Il était là, désavoué par tous, inconnu de tous, exposé à la curiosité frivole d'une populace française. Ici était venue aboutir cette longue existence de talents dégradés et d'insouciance criminelle. Dans ce repos sublime dont la mort l'enveloppait, son visage sculptural, aux larges contours, se montrait à nous empreint d'une telle majesté que les Parisiennes qui caquetaient autour de moi s'écriaient en chœur de leurs voix aiguës en levant les mains d'admiration « Ah, le bel homme! Mon Dieu, le bel homme !» Une seule blessure l'avait tué. C'était un coup de couteau ou de poignard dont l'étroite plaie se voyait à peine au-dessus du cœur. Le cadavre ne portait aucune autre trace de violence, si ce n'est pourtant au bras gauche, et là justement à l'endroit où j'avais vu marquer le bras de Pesca, deux fortes entailles dessinant assez nettement la lettre T avaient absolument effacé le symbole de la société secrète. Les vêtements du mort, accrochés au-dessus de lui, montraient qu'il avait eu conscience de son danger. Ils étaient choisis de manière à le déguiser en ouvrier parisien. Pendant quelques secondes encore, mais non plus longtemps, je me contraignis à contempler ce spectacle à travers la cloison transparente. Mais je n'en dirai pas davantage, car c'est là tout ce que je vis. Le peu de renseignements relatifs à cette mort, que j'ai pu me procurer dans la suite, quelques-uns de Pesca, quelques autres puisés à différentes sources, doivent être résumés ici pour en finir avec ce triste sujet. Le corps de Fosco avait été retiré de la scène, encore enveloppé du déguisement dont j'ai parlé. Rien ne fut trouvé sur lui qui révéla ou son nom, ou son rang, ou l'endroit qu'il habitait. La main qui l'avait frappé ne fut jamais connue, et les circonstances dans lesquelles il avait péri sont encore ignorées. Je laisse aux autres le soin de tirer leurs conclusions, comme j'ai tiré les miennes, par rapport à ce mystérieux assassinat. Lorsque j'aurai dit que l'étranger à la cicatrice était un membre de la fraternité, reçu en Italie après l'expatriation de Pesca, quand j'aurai ajouté que les deux entailles dessinant un T sur le bras gauche du cadavre formaient l'initiale du mot italien « traditore » et attestaient ainsi que la fraternité avait fait justice d'un traître, j'aurai pour autant que je le puisse contribué à jeter quelques lumières sur le trépas mystérieux du comte Fosco. Le lendemain du jour où il m'avait été donné de le voir, le cadavre fut reconnu par suite d'une lettre anonyme adressée à la veuve du comte. Il fut enterré par les soins de Madame Fosco dans le cimetière du Père Lachaise. Jusqu'à présent, des guirlandes funéraires que la comtesse renouvelle de ses mains décorent fidèlement les dallages de bronze qui entourent le tombeau. Elle vit à Versailles dans l'isolement le plus complet. Il n'y a pas longtemps qu'elle publiait une biographie de son défunt époux. Ce livre n'éclaircit en rien l'histoire de sa mort et ne dit pas même quel vrai nom il avait le droit de porter. Ce n'est qu'un long panégyrique consacré à chacune de ses vertus privées, de ses talents hors ligne et à l'énumération des honneurs qui lui avaient été conférés. Les circonstances de sa mort y sont très brièvement relatées et se résume à la première page par cette phrase pompeuse « Sa vie a été une longue affirmation du droit aristocratique et des principes sacrés de l'ordre social. Il a péri martyr de sa cause. » Chapitre 3. Après mon retour de Paris, l'été, l'automne passèrent sans amener aucun changement qui mérite d'être mentionné ici. Nous vivions si simplement, nous étions heureux à si peu de frais que le salaire de mon travail, dont rien ne me dérangeait plus, suffisait à tous nos besoins. Au mois de février de la nouvelle année, notre premier enfant vint au monde. C'était un fils. Ma mère, ma sœur et Mrs. Vesey furent nos convives au petit repas de baptême, et Mrs. Clemens était venue, en cette occasion, prêter assistance à ma femme. Marion fut la marraine de notre garçon. Pesca et M. Gilmore, ce dernier par procuration, furent ses parrains. Je puis ajouter ici que lorsque M. Gilmore nous revint, un peu plus tard, il voulut bien, à ma requête, se prêter au dessin dans lequel j'ai réuni ces pages, et rédiger la relation qu'on a trouvée sous son nom dans la première partie du récit. C'est ainsi que, reçue la dernière, elle n'en a pas moins, en vertu des exigences chronologiques, sa place avant beaucoup d'autres que j'avais rassemblées. Le seul événement de notre triple existence qui reste maintenant à raconter eut lieu quand Walter venait d'entrer dans son 7e mois. À cette époque, je fus envoyé en Irlande pour y esquisser certains sites compris parmi les illustrations futures du journal auquel j'étais attaché. Absent pour une quinzaine, je correspondis régulièrement avec Laura et Marion, sauf dans les 3 jours qui précédèrent mon retour, et où l'indécision de mes allées et venues ne m'avait pas permis de recevoir leurs lettres. J'achevais de nuit le voyage qui me ramenait à elle. Et lorsque j'arrivais chez moi, de grand matin, j'eus la surprise très complète de n'y trouver personne pour me recevoir. Laura, Marion et l'enfant étaient partis de la veille. Un billet, écrit par ma femme, et qui me fut remis par le domestique, ne fit qu'augmenter mon étonnement en m'apprenant que tout ce monde était parti pour l'Emeridge House. Marion avait interdit absolument qu'on me donnât par lettre les moindres explications. J'étais prié de les suivre aussitôt que j'arriverais. Un éclaircissement complet m'attendait à mon arrivée dans le Cumberland. Et d'ici là, il m'était interdit de concevoir la moindre inquiétude. Le billet n'en disait pas plus long. Il était encore d'assez bonne heure pour prendre le train du matin. J'arrivais à l'Emeridge House dans l'après-midi. Ma femme et Marion étaient toutes deux en haut. Elles s'étaient établies, sans doute pour augmenter encore ma surprise, dans la petite chambre qui m'avait jadis été assignée pour atelier, lorsque je travaillais au dessin de M. Fairley. Sur la chaise même qui me servait habituellement, Marion était maintenant assise, et sur ses genoux, l'enfant tétait assidûment son hochet de corail. Tandis que Laura, debout auprès de cette table à dessin que je me rappelais si bien, tenait ouvert sous sa main le petit album qu'autrefois j'avais rempli pour elle-même. « Au nom du ciel, demandai-je, qui a pu vous donner l'idée de venir ici? Monsieur Fairley, au moins, en est-il informé ?» Marion arrêta la question sur mes lèvres en m'apprenant que Monsieur Fairley était mort. Subitement atteint de paralysie, on avait pu lui faire reprendre connaissance. Monsieur Keary les avait avisés de son décès et leur avait recommandé de se rendre immédiatement à Limeridge House. Le pressentiment de quelque grande métamorphose commençait à poindre dans mon esprit. Laura prit la parole avant que j'eusse tout à fait débrouillé mes idées à ce sujet. Elle se glissa auprès de moi pour jouir de la surprise qu'exprimait encore ma physionomie. « Mon bien-aimé Walter, dit-elle, avons-nous réellement à nous excuser d'être si témérairement venus ici? Alors, mon ami, je crains bien d'être obligé, contre toutes nos règles, à faire allusion au passé. » « Vous n'êtes nullement obligé à rien de pareil, dit Marion. Nous nous expliquerons tout aussi clairement et d'une manière beaucoup plus intéressante en nous reportant vers l'avenir. » Elle quitta sa chaise et, soulevant l'enfant qui se démenait en gazouillant dans ses bras, « Savez-vous, Walter, qui est ce jeune homme ?» me demanda-t-elle, les yeux débordant de larmes. Mais c'était des larmes de joie. « Mon étourdissement lui-même a ses limites, lui répondis-je, et je crois pouvoir garantir que je reconnais mon petit bonhomme. « Petit bonhomme, s'écria-t-elle avec un retour de son ancienne gaieté, osez-vous bien traiter si familièrement un des membres de l'aristocratie anglaise? Et savez-vous quand j'offre à vos regards cet illustre bébé en présence de qui vous êtes? Évidemment non. Laissez-moi donc présenter l'un à l'autre deux éminents personnages. Monsieur Walter Hartwright, l'héritier de Limeridge. » Ce fut ainsi qu'elle parla. J'ai tout dit en écrivant ces derniers mots. La plume tremble dans ma main. Le long et heureux travail de tant de mois est maintenant terminé. Marion a été l'ange tutélaire de nos deux existences. À Marion, un jour, de parachever notre histoire. Fin de La femme en blanc.